Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir. Je suis un peu stressé ce matin, je suis fatigué, je suis vraiment pas bien, donc j'ai besoin du Seigneur et de la grâce de Dieu pour transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Voilà, ça sera dans une grande faiblesse, mais je compte sur la grâce de Dieu pour m'aider à partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Alors la semaine dernière, on a eu un super programme. On a parlé de l'année qui commence. On a parlé de l'engagement des uns et des autres. C'est réjouissant de voir une église qui s'engage derrière le Seigneur avec des dons et des talents variés. Et donc on a eu ce programme là qui a été léché aux petits oignons, hein, il faut le dire. Il y avait des commissions, il y avait pas mal de choses en vue. Et on a tous envie de s'engager, en fait. On a envie de casser la baraque un petit peu. On a envie de tous de réussir, d'honorer le Seigneur. Qui a envie, là, à lever la main? Qui a envie de s'engager derrière ce programme? Waouh! Punaise, les anciens. Alors, attendez, j'ai peut-être pas parlé clairement, je vais reposer la question. Qui a envie de s'engager derrière ce programme? Bon, super, ça jette un froid. C'est comme quand on fait une blague et que personne ne rigole. Donc j'ai bien fait de ne pas faire de blague. Voilà, mais quand même, pour ceux qui veulent s'engager, il y en a une petite poignée, eh bien je pense que vous avez envie de trouver votre place et de vous engager derrière le Seigneur. Et la question qui se pose pour chacun de nous, c'est comment faire finalement? Parce que Jésus, il n'a pas laissé une feuille de route très très claire. Quand on regarde ce que Jésus nous a dit, finalement, ça se résume en quelques mots. C'est à la fois clair et peu précis. Quand on lit dans Matthieu, je ne vais pas vous rappeler, je vous rappelle ce texte, on ne va pas le prendre dans la Bible. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus a dit tout simplement à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Donc ce que Jésus nous demande, c'est de faire des disciples. Ok, mais quand on a entendu ça, c'est quoi faire des disciples? Alors il a aussi dit, parce que ça c'est avant sa mort et sa résurrection, mais avant de remonter au ciel, il a aussi dit, pareil à cette poignée de disciples qui étaient sur le mont des Oliviers, il a dit, attendez là, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, ça c'est dans Actes 1, chapitre 8, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il a demandé d'être ses témoins. Alors il a parlé à ses disciples qui ont vu tout ce qui s'est passé et il leur a dit, bah, juste ce que vous avez vu, transmettez-le. D'ailleurs le mot témoin est devenu, dans l'original, il est devenu le mot martyr. C'est le mot martyr, donc c'est-à-dire ces témoins, ça coûte tous les gens qui ont été témoins, et notamment sur les 12 disciples, à part Judas qui s'est suicidé et l'apôtre Jean, qui probablement est mort de sa belle mort sur l'île de Patmos, étant quand même exilé. Tous les autres disciples sont morts d'une mort violente. Hein, donc ils ont vraiment été des témoins qui ont coûté. Voilà, donc en fait Jésus dit, faites des disciples et soyez mes témoins. On n'a pas grand-chose d'autre sur le détail de ce qu'il faut faire. Et notamment tout ce qui nous a été présenté la semaine dernière est une interprétation de l'Église par rapport à un contexte. Alors la question se pose à nous, mais comment faire des disciples ? Comment être sûr que ce que nous allons faire est conforme à ce que Jésus veut? Alors on est tous zélés, on a tous envie de bien faire, mais on sait malheureusement qu'on a un ennemi. On a un ennemi qui veut nous empêcher de réussir. Comment on sait qu'on a un ennemi? Parce que cet ennemi a essayé d'empêcher Jésus de réussir. Il y a eu les tentations de Jésus, et puis tout au long de son ministère, il lui a mis les bâtons dans les roues, jusqu'à la fin même, il lui a mis les bâtons dans les roues. Et heureusement, Jésus a remporté la victoire, il a vaincu l'ennemi. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire des disciples, mais on vit dans un monde qui est dominé par le malin. Pourquoi? Parce que Satan est appelé le prince de ce monde. Il a pris possession du monde parce qu'Adam lui a donné le monde en quelque sorte. Dieu avait donné le monde à gérer à Adam, et Adam, par son péché, a soumis quelque part, a livré le monde à Satan. Et donc, le but de Satan, c'est de nous détourner du but. Alors comment faire pour faire des disciples? Garder la bonne direction sans tomber dans le piège de Satan. Comment répondre correctement à sa mission? Comment mettre en place finalement ce programme? Et moi, je voudrais voir ce matin avec vous, hein, c'est un peu la suite de ce qui nous a été annoncé, comment est-ce que l'Écriture peut nous aider dans ce magnifique programme de Sonra? Comment accomplir notre mission? Comment faire des disciples? Avant de faire des disciples, il faut déjà le devenir soi-même, parce qu'on ne peut pas emmener quelqu'un là où on n'a pas été. En fait, c'est facile. C'est facile parce qu'il suffit d'imiter ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est venu sur terre, bien sûr pour mourir, pour nos péchés, mais il est venu pour former des disciples. Il a pris des gens complètement hétéroclites. Moi, je n'aurais jamais choisi des gens comme ça, mais lui, il les a choisis. Et il en a fait pendant 3 ans des disciples. Il suffit de regarder comment Jésus a fait pour former des disciples. Alors oui, c'est facile parce qu'il suffit de bien étudier les Écritures, c'est ce qu'on va voir, mais c'est à la fois difficile parce qu'on a un ennemi qui va nous empêcher. Et il va nous faire miroiter sa vision des choses à lui. Et on sait que Satan, c'est un bon imitateur de Dieu, donc il va nous proposer des subtilités, il va nous faire croire des subtilités pour former des disciples qui risquent de nous conduire dans le mur si on n'y prend pas garde. Donc on va regarder un peu ce que nous dit les Écritures là-dessus. Je vous invite à prendre 2 textes. Donc, j'ai pas beaucoup de diapos. Hein. J'en ai une. Vous allez voir, c'est très résumé. Et puis, c'est bien. Ça va nous amener à prendre un peu la Bible. Alors, on va ouvrir nos Bibles. Et merci François d'avoir fait cette introduction parce que on va reprendre l'exemple de l'apôtre Pierre. Hein. Et je vous invite à prendre Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. Donc, c'est un passage bien connu qui s'appelle la confession de Pierre. Alors, on va pas lire la confession de Pierre, hein, quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui répond « Tu es heureux, fils de Jean, parce que ce n'est pas de toi-même que tu l'as trouvé, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc. » Alors, on va prendre à partir du verset 21, ou plutôt à partir du verset 20. Voilà, donc là, la confession est terminée, Jésus a loué cette révélation de Pierre, et il dit « Alors ». Et le mot « alors » est important, parce que là, on a vraiment un tournant. « Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Voilà, on va arrêter là. Et on va lire un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Galates, un verset, Galates chapitre 4 et verset 19. Galates chapitre 4, verset 19. Alors, les Galates, vous savez qu'ils étaient dans une hérésie, une fausse doctrine, ils rajoutaient quelque chose à l'évangile. Hein, Paul va les traiter de Galates insensés. Qui vous a détourné du véritable évangile, hein? On est vraiment dans la question dont je parlais tout à l'heure, Satan qui fait dévier un petit peu la mission. Et Galates, donc chapitre 4, verset 19, voilà ce que Paul dit. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et j'insiste sur ces derniers mots, jusqu'à ce que Christ soit formé vers vous, en nous. Donc pour les ados, les pré-ados, les collégiens, pardon, qui notent sur leur petit feuillet, hein, la première question, donc voilà les références, Matthieu 16, verset 21-25, Galates, chapitre 4, verset 19. Et on voit ici que l'objectif du discipulat, l'objectif d'un disciple, c'est de former Christ en chacun de nous. Hein, ce que n'ont pas fait les Galates, parce que les Galates se sont détournés d'un faux évangile. C'était le véritable évangile, et puis on rajoutait un petit quelque chose. On rajoutait un peu de la loi de Moïse. Paul est obligé de les dénoncer, de dénoncer cette hérésie, et de dire, ben, j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, Paul est obligé de revenir pour les amener vraiment au véritable discipulat, qui est la pureté de Jésus-Christ crucifié. Hein, et on retrouve ce texte de Matthieu, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà, donc on est ici à mi-ministère, et donc l'apôtre Pierre n'a saisi à ce jour que la moitié de l'évangile. Il a saisi Jésus, le Messie, le libérateur, on veut te suivre, etc. Plein ce que nous a dit François tout à l'heure. Et son reniement montre que finalement, il n'avait pas compris. Donc le but de Jésus, et Pierre est l'archétype, c'est de former Christ en lui. Et Pierre, à ce moment-là, il n'avait pas tout compris. Il avait compris la moitié de l'évangile. Jésus, le Messie, le libérateur, qui allait chasser les Romains, etc., qui allait prendre le pouvoir. Et quand Jésus commence à lui dire, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il renonce à soi-même, prendre sa croix et me suivre, ben Pierre, ça colle pas avec lui. Il a pas cette idée-là. Il a du mal à comprendre cette autre moitié que l'évangile est centré sur la croix et la mort de Jésus et non pas centré que sur Jésus qui est le Messie libérateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Pierre voyait en Jésus, et les autres disciples aussi, le Messie libérateur. Parfois, même aujourd'hui, on parle du Seigneur en disant « Mais viens à Jésus, il va prendre tous tes problèmes, ça va aller mieux, tu vas voir, il va te libérer de toutes tes craintes. » C'est partiellement vrai. Oui, Jésus est notre appui, mais la vie chrétienne n'est pas une vie exempte de souffrance, c'est une vie qui est centrée sur la croix. Et on va voir ce que c'est. De la même façon, lorsque Jésus descend sur la montagne de Transfiguration, on va lire en Luc chapitre 16, hein, il amène à un moment donné un peu plus tard, Luc chapitre 16, il amène ses disciples, alors là il les amène pas tous, il en amène trois, sur la montagne de la Transfiguration, voilà, Marc 9 chapitre verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Il retient sa parole tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressuscité entre les morts? Et dans Matthieu, il est dit qu'à un moment donné, dès qu'ils descendent de la montagne, Jésus commence à leur expliquer qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir et ressusciter le troisième jour. Et là, la parole nous dit que les disciples ont du mal à comprendre. Donc, on a du mal à comprendre que l'évangile est centré sur la croix et pas centré sur Jésus, un espèce de libérateur qui enlève tous les problèmes. Donc Pierre, il a son idée dans ce texte sur comment les choses doivent marcher. Et il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. Donc Pierre, il a son plan et Jésus est obligé de le reprendre, de lui dire, arrière de moi Satan. Parce que sinon, il imposerait à Jésus sa façon de faire. Et on est parfois comme ça, nous. On peut faire de grands plans pour Dieu. On peut faire des grandes actions pour Dieu. On peut prier même. Seigneur, agis comme ça, fais comme ça, guéris cette personne, fais. On a nos idées, mais c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Parce que le plan de Dieu, il est parfois différent. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit Dieu. Et Jésus va exprimer cette réalité en Luc 16. Luc 16, chapitre 15, il nous est dit, Jésus va dire à ses disciples, ce qui est en haute estime parmi les hommes, donc ce que les hommes pensent être bien, Dieu l'a en horreur. Et le mot horreur ici est très fort en Luc 16, 15. C'est un mot très fort qui exprime vraiment le ressenti de Dieu à propos des choses que les hommes ont tendance à estimer. Donc c'est en horreur. Voilà. C'est pour ça que Dieu insiste toujours sur mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est Ésaïe 55, autant mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà. Donc, Jésus est obligé de reprendre Pierre parce que derrière l'intervention, donc, de Pierre, il y a une intention de Satan. Derrière une bonne intention, si on fait pas gaffe, on peut avoir une intervention de Satan. Et c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même, renoncer parfois à ses idées préconçues, renoncer à sa façon de faire. Et la question se pose, mais comment suivre Jésus? Jésus va dire à l'apôtre Jean, dans ce passage que François a cité, près du lac de Tibériade, après la résurrection, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Que t'importe, il dit ça à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi. Donc l'objectif du discipulat, selon Galates 4.14, c'est de former Christ en nous. Et on va regarder ensemble, en voyant comment Jésus s'y est pris pour former ses disciples, la bonne et la mauvaise manière. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Jésus qui formait des disciples. À l'époque, il y avait les disciples de Jean-Baptiste, puis il y avait les disciples des pharisiens. Les pharisiens, ils avaient leurs disciples aussi. Donc les pharisiens formaient des disciples, mais ils les formaient de la mauvaise manière. Jésus va venir pour montrer comment former des disciples. Parce que les deux faisaient des disciples. L'un faisait bien, c'est Jésus. L'autre faisait de manière tordue. Et on va regarder particulièrement, dans les Écritures, quatre tentations qui peuvent nous détourner du but de bien former des disciples et de bien devenir soi-même un disciple. Quatre tentations qui peuvent nous amener à suivre un faux Jésus. Parce que c'est possible de suivre un faux Jésus sans s'en rendre compte. Donc la question c'est, est-ce que je vais suivre le Jésus crucifié ou est-ce que je vais suivre un ersatz de Jésus, un faux Jésus? C'est ça en fait, ça, pour les préados qui notent. Hein, le sujet c'est, est-ce que je vais suivre un vrai Jésus ou est-ce que je vais suivre un faux Jésus? On va voir que c'est très subtil. Et très vite, on peut devenir un peu comme l'église de la Odyssée, c'est-à-dire que on peut ne pas s'apercevoir qu'on est pauvre, misérable, aveugle et nu. Alors, la première des tentations, on va afficher la diapo suivante, mais je dois la voir, je crois. Tu me l'as laissé la télécommande, non? La première des tentations, c'est la popularité. Hein? Soit populaire, soit reconnu. Et ça, ça fait référence à la préoccupation de ce que les autres pensent de moi. Quand j'étais jeune, quand je commençais à prêcher, j'avais l'âge d'Aurélien, d'Antoine, eh bien, j'étais content quand on disait du bien de mes prédications, puis j'étais un peu déprimé quand personne ne disait rien. Vous voyez ? Et pourtant, je disais, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais au fond de moi-même, je me souviens, et j'avais ça, au fond de moi-même, je me préoccupais peut-être plus de ce que les autres pensaient de ma prédication, que de la justesse de ce que je devais dire par rapport au Seigneur. Et je me dis, c'est un sentiment très humain qui nous vient du désir profond de chaque être humain d'être aimé, d'être en sécurité. Et ça, si on remonte un peu à la Genèse, eh ben, on s'aperçoit que finalement, après le péché, Adam et Ève se sont retrouvés dans la honte. Ils étaient quelque part honteux, ils avaient besoin d'être rassuré, et au lieu de se repentir et de venir se blottir dans les bras du Père, comme François nous l'a dit, ben, ils ont un peu été, voilà, ils se sont justifiés, ils se sont auto-accusés, enfin, Adam a accusé Ève, Ève a accusé le serpent, ça s'est pas bien passé. Et ils sont restés dans une espèce de honte et de culpabilité qui a suivi l'humanité, et qui fait qu'à un moment donné, on a un désir profond, qui est intrinsèque dans nos os, dans notre profondeur, d'être aimé, d'être en sécurité, d'être rassuré. Et donc, on pourrait très bien mesurer notre réussite par la notoriété, être connu, être populaire. Aujourd'hui, par exemple, ça se mesure par un nombre de likes sur Facebook. Je mets une publication, oh, j'ai 70 likes, génial, j'ai mis une belle photo, j'ai écrit quelque chose d'intelligent. Mais alors là, si je mets une autre photo le lendemain et j'ai 2 likes, alors tout de suite, c'est la déprime. Là, je le dis un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des adolescents qui se suicident pour ça, qui font de la chirurgie esthétique parce qu'ils ont mis leurs photos et à un moment donné, ils ont eu 2 likes et donc ils se sont dit, c'est sûrement mon nez qui est un peu tordu, je vais raccourcir le nez. C'est la réalité. Ou alors, je poste une vidéo, je poste un message et je regarde le nombre de vues de ma vidéo. Est-ce que ma vidéo a été vue ? Donc, ce souci de la notoriété, on est dans un monde d'image publique, on est dans un monde d'insécurité, parce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, intrinsèquement, on est hérité du péché d'Adam, eh bien, cette notoriété, quand elle nous fuit, c'est difficile. Hein, le dictionnaire dit la popularité, c'est quoi ? C'est être aimé, reconnu et admiré par beaucoup d'autres. Quand on regarde Jésus, il est venu au monde dans une étable. Il n'y avait personne à part des bergers, les personnes les plus basses dans la couche de la société, et il y avait des anges. Donc il est venu dans une étable, dans l'anonymat le plus total. Il a habité à Nazareth, qui était le trou de complètement perdu dans la montagne, parce qu'il n'y avait pas de source d'eau à Nazareth, donc il y avait très peu d'habitants. Il n'est jamais sorti de son pays, il a dû fuir en Égypte, enfin voilà. vraiment, question popularité, Jésus, il n'égale pas les autres. Et cette tentation de la popularité, on la retrouve dans la tentation de Jésus. Hein, vous savez que dans Matthieu et dans Luc, vous avez les trois tentations de Jésus qui sont racontées, mais pas dans le même ordre. Hein, je ne vais pas insister là-dessus, mais la deuxième tentation de Matthieu et la troisième tentation de Luc, c'est la tentation de la popularité. Et là, à la tentation de Jésus, on est au début du ministère. Jésus n'est pas connu et Satan lui dit, bah, écoute, regarde, t'es fils de Dieu, tu te jettes du haut du temple, il met un parachute, il te retient, tu descends comme sur une feuille, là, alors tout le monde va t'admirer, tu vas avoir un ministère extraordinaire. Voilà ce que Satan lui propose. C'est la tentation de la popularité. Et si on ne fait pas attention, nous, en tant que disciples, on peut tomber dans cette tentation de la popularité. De faire des choses, non pas pour la gloire de Dieu, comme on dit souvent, mais par une gloire intrinsèque. On a envie de se valoriser, on a envie de se mettre en avant, on a envie d'être reconnu, on a envie d'être admiré, on a envie d'être loué, etc. Et d'ailleurs, les pharisiens, en Matthieu 16, au début du chapitre 16 de Matthieu, les pharisiens vont demander à Jésus, « Montre-nous un signe venant du ciel. » Et Jésus refuse cette tentation de la popularité, et il ne donne pas de signe, il leur dit, « Vous n'aurez pas de signe, sinon celui de Jonas. » Et les pharisiens n'ont pas compris, bien sûr. Jonas qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, c'est une similitude, une métaphore, parce que Jésus avait passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Donc Jésus, lui, il ne tombait pas dans cette tentation de la popularité. Il faisait ses miracles discrètement. Il disait toujours « n'en parle à personne ». Par exemple, quand il a multiplié les pains, ça s'est fait discrètement, il n'y a pas eu un roulement de tambour. « Attention, mesdames et messieurs, là, vous allez voir, là, 5 pains, 2 poissons, vous allez voir, ça va exploser, boum !» Ben non, c'était pas du tout ça. Il recommanda, on a lu tout à l'heure, il le recommanda sévèrement à ses disciples de ne dire à personne que c'est le Christ. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, vous connaissez cette parole, où ses frères qui ne croyaient pas en lui, lui demandent « Personne ne fait les choses en secret s'il cherche à se faire connaître ?» Et Jésus leur dit, mais non, montez-vous à la fête, moi je me débrouille. Et puis ils montent après, discrètement. Donc Jésus, il faisait tout pour ne pas être populaire. Tout le contraire des pharisiens que Jésus va dénoncer. Hein? Et on va lire donc, dans l'évangile de Matthieu, là c'est la bonne référence, Matthieu 23, lorsqu'il fustige les pharisiens, Matthieu 23, chapitre 5 à 10. Matthieu 23, chapitre 5 à 10. Lorsqu'il parle des pharisiens, il leur dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères, ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. » Lorsqu'on était jeune converti, on fréquentait une église, je vous dirai pas laquelle, où il y avait, c'était une très grande église, et il y avait un espèce de carré là devant. Imaginez un carré de 10 chaises là. Et c'était les chaises vraiment réservées pour les anciens de l'église. Il y avait quasiment le nom gravé dessus. Vous voyez? Donc, et on était dans une église évangélique, propre sous elle, etc. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est pas juste du temps de Jésus, mais nous, on est différents. C'est la réalité et c'est une tentation qui peut venir à n'importe quel moment. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus, lorsqu'il va aborder le caractère du disciple, il va dire, lorsque tu jeûnes, lave ton visage, parfume ta tête, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes. Lorsque tu fais l'aumône, ne va pas le crier sur les toits, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Lorsque tu pries, en ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est dans le lieu secret. Donc tout est anti-notoriété chez Jésus. Et pour répondre à cette question, que chacun renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive, c'est ça, prendre sa croix et suivre, c'est renoncer à la popularité. Et c'est pas soit populaire, c'est soit connu de Jésus. Parce que lorsque je prie, lorsque je rentre dans ma chambre et je prie Dieu dans le lieu secret, Dieu sait que je prie. Lorsque je jeûne et je suis discret, je sais, Dieu sait que je jeûne. Et ça me suffit. Ou ça devrait me suffire. J'ai pas besoin de crier, de dire à tout le monde que je jeûne, parce que tout le monde va dire, oh, qu'est-ce qu'il est bien, lui, punaise, il jeûne. Moi, j'arrive pas, mais lui, il jeûne. Oh, qu'est-ce qu'il donne beaucoup, c'est dingue, là, il participe à la construction du temple, c'est extraordinaire. Vous voyez, ce genre de tentation subtile qui peut nous tomber dessus. Et sans arrêt, ne croyez pas que c'est réservé aux autres. Parce que Dieu connaît notre cœur et Satan connaît notre cœur aussi. Alors, si vous ne vous sentez pas concerné, moi, j'ai d'autres choses pour vous. Par exemple, est-ce que vous dites oui quand vous avez envie de dire non pour ne pas choquer ou ne pas décevoir quelqu'un? C'est une question d'être populaire. Je fais quelque chose pour être aimé. J'ai pas envie, mais je dis oui quand même. Ou bien je ne parle pas de mes échecs, parce que si je parle de mes échecs, je vais apparaître comme un loser. Aujourd'hui, dans ce monde, dans notre monde, on n'aime pas les losers. Donc je ne vais pas parler de mes échecs. Ou alors, pour ne pas paraître nul, je vais mentir. C'est un petit mensonge, c'est pas grave. Je vais quand même mentir. Ou bien, tiens, tel frère, il aurait besoin d'un bon feedback pour, transformer quelque chose dans son caractère. Et puis, je ne vais pas lui dire en vérité, parce que je me dis, si je le blesse, il ne va plus me parler. Donc finalement, je préfère rien lui dire. Il n'a qu'à se débrouiller avec son truc. En fait, j'accorde beaucoup plus d'importance à l'apparence que être vrai devant Dieu. C'est ça, en fait, la tentation d'être populaire. Deuxième tentation, c'est la tentation d'être grand. Pourquoi ? Parce que notre culture honore les grands et rejette les petits. Et ça pousse les êtres humains, vous, moi, à me concentrer là-dessus. Alors, on a inventé des prix Nobel, on donne des Oscars au cinéma, on donne des médailles olympiques, on canonise les gens qui ont eu des actions humanitaires extraordinaires. Et loin de moi de critiquer des gens qui ont eu des Nobel, il y a des belles choses qui ont été faites. On dit souvent la plus mauvaise place aux Jeux Olympiques, c'est la quatrième. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de médaille. Et puis on retient que le nom du vainqueur. Enfin, entre nous, si je vous demandais le vainqueur du lancer du javelot aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, c'est qui ? Ouais, moi je ne sais pas. Parce qu'il est déjà mort, puis on l'a oublié. Sauf peut-être sur la place de son village, quelque part, on lui a peut-être dressé une statue. Donc, vous voyez, le monde aime les grands. Alors, ça pourrait se traduire aussi par... je suis dans une grosse église, on a une belle croissance, on a plein de baptêmes. Je discutais il y a quelques années avec un pasteur qui me dit, nous, on a des grands projets, on va déménager, on va construire des gros locaux. Moi, j'aimerais avoir une grosse église. Réalité, hein. Aux États-Unis, les pasteurs sont recrutés sur leur CV. Ce qui compte dans le CV des recrutements de pasteurs, c'est tu as pris une église de combien de membres et tu l'as lâchée à combien de membres et en combien de temps. Vous voyez, donc c'est vraiment une belle statistique. Tu as pris une église 50 membres, tu as terminé 800 membres, super, tu es un bon pasteur. Par contre, tu as pris une église de 100 membres, tu l'as lâchée à 80, tu es vraiment nul. Sauf qu'il y avait peut-être 100 personnes qui étaient des jeunes convertis, il y en a 20 qui ont lâché et il a lâché son église à 80 disciples vraiment engagés qui vont conquérir le monde. Mais ça, on ne le sait pas. Ce n'est pas dans les statistiques des CV. Souvent, notre idée de grandeur, ça vient de notre famille d'origine. C'est intéressant, la famille d'origine, parce que la manière dont on a été élevé, on a des images de la grandeur qui est différente. Alors, je ne dis pas que rejeter la grandeur, ça veut dire être médiocre. L'excellence et la grandeur sont deux choses différentes. Il y a la manière d'agir, l'excellence, on vise l'excellence. Jésus nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Alors que la grandeur, c'est un but à atteindre, souvent sans Dieu, par mes propres efforts, pour ma propre gloire. Comme Nebuchadnezzar, il se fait construire une statue pour être adoré, etc. Ou Hérode, qui se fait construire un grand temple, qui harangue les foules à Césarée, etc. Donc, la grandeur et l'excellence sont différents. Et ce qui compte, finalement, c'est la motivation. C'est avec quelle motivation je le fais. Et ce que Jésus va dénoncer, c'est ce que j'appellerais, moi, la grandeur ambitieuse. C'est la grandeur ambitieuse c'est ça qui est dénoncé. Et on a lu tout à l'heure dans le psaume 118, « Mieux vaut placer sa confiance en l'Éternel que de la placer dans les grands ». Merci Françoise d'avoir lu ce passage pour nous. Et Frédéric Delbrunner, dans son commentaire sur Matthieu, décrit cette grandeur ambitieuse comme l'une des principales illusions de la foi. C'est une illusion de la foi. C'est ce qui a placé les pharisiens à se considérer un peu au-dessus des autres, à rechercher les titres, les sièges honorifiques. Il y a quelques années, véridique, j'étais à une réunion inter-église, Et je discutais avec un jeune, et vient ici, vient se joindre à nous un pasteur bien connu. Bien sûr, je vous tairai le nom du pasteur. Et je présente donc ce pasteur au jeune qui ne le connaissait pas. Et à ma surprise, le pasteur, bon, je lui dis, pasteur de l'église, machin. Et lui, il commence à égrener ses titres. Alors, président de l'association, je ne sais pas quoi, responsable de trucs et tout. Moi, j'étais complètement scié. Il en a égrené 4 ou 5. Surprenant, un pasteur qui prêche et tout, hein, ben, connu. Hein, bon, vous aurez pas son nom, de toute façon. Jésus, lui, n'avait rien de grand. D'accord ? On l'a vu tout à l'heure, ses disciples, ils n'avaient rien de grand, son ministère n'avait rien de grand, il a été abandonné par tout le monde. Il a même fait douter Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, à un moment donné, Jésus, il était tellement pas grand, qu'il a envoyé, quand il était en prison, 2 disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Parce que du coup, c'était tellement petit son truc, et Jean-Baptiste, il avait aussi son idée, même si c'était le plus grand parmi les hommes, etc. Il avait son idée, il voyait un grand Messie. Ben non, Jésus était un petit Messie. Et Jésus nous appelle à être petits. Et il va dire, c'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui va s'abaisser comme un petit enfant. Voilà, donc ce que je vous suggère, c'est 2 questions à vous poser dans votre intimité, dans votre culte personnel ce soir ou demain matin. Première question, vous pouvez le noter, et puis les ados aussi sur leur fiche. Est-ce que mes actions poursuivent vraiment la gloire de Dieu ou mon désir personnel de grandeur ? Est-ce que mes actions poursuivent la gloire de Dieu ou mon désir personnel de grandeur ? Et la deuxième question, c'est quelle opportunité Jésus va placer devant moi pour être un faible avec les faibles, pour être un petit avec les petits ? Quelle opportunité Jésus va placer pour atteindre un petit ? Si je suis petit, je peux atteindre un petit. C'est lui qui en a le plus besoin. Donc je répète deux questions pour votre culte personnel et le mien aussi. Est-ce que mes actions poursuivent la gloire de Dieu ou mon désir d'ambition personnelle de grandeur ? Et quelle opportunité Dieu place devant moi ? Pour être petit avec les petits, faible avec les faibles. C'est ce que Jésus dira hein, dans Matthieu 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu, malade et en prison. Et vous m'avez rendu visite. Voilà, donc, sois grand. Ça, c'est ce que le monde propose. Le faux Jésus, le vrai Jésus, c'est attends qu'il t'élève. Sois petit, d'accord ? Humiliez-vous donc. Sous la puissante main de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre, il vous élèvera au temps convenable. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est la conclusion du pharisien et du publicain. Voilà, sois grand, attends qu'il t'élève. Troisième tentation, c'est la tentation de la réussite. Ben oui, le monde parle de réussite. C'est toujours plus grand, plus haut, plus fort, les records, etc. Et la réussite, selon Jésus, c'est complètement différent. Et là, je voudrais que vous reteniez bien ça. La réussite, selon Jésus, c'est de devenir la personne que Dieu nous appelle à être, à devenir, et à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc je répète, la réussite, selon Jésus, c'est devenir la personne que Dieu nous appelle à être et faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est tellement important. Et encore une fois, ça nous empêche pas d'être excellent. L'excellence, c'est un état d'esprit que Dieu nous demande d'avoir. On n'est pas en train de parler de médiocrité. Être petit, c'est pas être médiocre. On doit être excellent pour Jésus, mais humble et petit pour être conforme à ce que Jésus a fait. Quand je parle de ça, vous lisez les 4 évangiles, vous voyez que Jésus, il exprime tout ça. Et il a voulu intégrer ça dans le plus profond de ses disciples. C'est pour ça que la formation n'est jamais une formation intellectuelle. Sinon, Jésus aurait envoyé ses disciples chez Gamaliel. Ils auraient été formés intellectuellement, ils auraient connu parfaitement les Écritures. Mais Jésus a voulu les prendre avec lui parce qu'il avait besoin de leur inculquer ça au quotidien, d'extirper du plus profond d'eux-mêmes toute la colonne de droite, toute la colonne de gauche ici. Tentation de la popularité, tentation de la grandeur, tentation de la réussite. Et pour bien comprendre, il faut voir comment Jésus a extirpé de l'apôtre Pierre cette fausse notion de réussite selon le monde. Pierre, par exemple, sur la montagne de la Transfiguration, au lieu d'écouter Jésus, il veut dresser 3 tentes. Il se fait reprendre par le Père. une voix vient du ciel et dit, écoutez-le, dresse pas trois tentes, c'est pas le moment, écoute ce que dit Jésus. Et puis, on a vu le reniement. On a vu également que lorsqu'il a été arrêté à Gethsémané, la première chose qu'il fait, il tire son épée, il coupe l'oreille. Et puis, il est tellement miné par son reniement, il se dit, bon, attends, être pêcheur d'hommes, c'est fini, quoi. Allez, on retourne pêcher, il embarque les autres avec lui. Il oublie la mission. Donc, sa définition de la réussite ne collait pas avec la croix. Elle collait avec un Jésus puissant. Et c'est pour ça que Pierre a échoué. Et c'est pour ça que Jésus a permis cet échec. Et le fait que Pierre a dû se morfondre pendant des jours et des jours jusqu'à ce que Jésus le réhabilite au bord du lac de Tibériade, pour lui montrer que cette notion d'échec est toute relative. Alors la question que je peux me poser, c'est quelle est ma définition de la réussite? Et personnellement, moi je lutte beaucoup avec ça en ce moment, parce que si je regarde aux yeux du monde ce que j'ai fait, ben, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose aux yeux du monde. Je côtoie tous les jours des chefs d'entreprise, des gens qui ont réussi, qui gèrent plein de gens, qui ont de l'argent, qui achètent des maisons, qui ont des grosses voitures, etc. Je vis en permanence avec des gens comme ça. Et parfois, c'est une lutte pour moi. C'est une vraie lutte. Et j'ai besoin de revenir à ça. Donc, je suis pas en train de vous donner des leçons. Je vous dis que c'est difficile. Et je comprends que peut-être certains luttent comme ça, en tout cas je voudrais vous encourager, parce que les Écritures nous montrent ce que c'est que le véritable disciple qui prend chaque jour sa croix. Parce que ça revient aussi à la question, quelle est ma propre valeur? Qu'est-ce qui définit ma valeur? Est-ce que c'est mon titre? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est ce que je possède? Est-ce que c'est ce que les autres disent de moi? Est-ce que ma valeur, elle vient de là? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que ma valeur, c'est le fait que je suis un enfant de Dieu qui est sauvé, qui est aimé inconditionnellement, accepté tel que je suis. Et Dieu t'accepte, toi, mon frère et ma sœur, tel que tu es. Quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge, quelles que soient tes capacités intellectuelles, ton QI, Dieu t'accepte tel que tu es parce qu'il est mort pour toi. C'est ça la réussite, selon Dieu. C'est de devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Et l'apôtre Pierre, Jésus, l'a pas lâché. Il a permis ce reniement pour que Pierre devienne la personne qu'il doit devenir. Et là, c'est tout l'objet de la dernière tentation de Jésus aussi. La dernière tentation dans Matthieu, la deuxième de Luc. Je vous ai dit que 2 et 3 sont inversés. Parce que la réussite selon le monde, Satan lui propose ça. Il lui dit, écoute, si tu te prosternes, tu as tout ça. C'était donné. Alors c'est faux déjà parce que ça a déjà été donné à Jésus, mais en fait Satan propose un raccourci sans la croix. Je te donne tout ça, tu passes pas par la croix. Recevoir l'adoration du monde sans la croix. Et là il aurait violé les limites que le Père avait mis pour lui et il n'aurait pas accompli la volonté du Père selon son plan et selon son timing. Parce que c'est ça finalement, la réussite c'est accomplir, devenir la personne que Dieu veut que je devienne, accomplir la volonté de Dieu selon le plan de Dieu et selon son timing, à sa façon, pas à la mienne, pas à la façon que moi j'imagine. Et ça nous amène à la quatrième tentation du disciple, et j'en aurai terminé. La quatrième tentation, c'est évite l'échec et la souffrance à tout prix. On est dans un monde qui bannit la souffrance. Les gens qui souffrent, on les met dans des hôpitaux, on leur met de la morphine, et puis les gens qui meurent, de toute façon, on les cache. On apprend comme ça, subrepticement, que Bernard Tapie est mort. Voilà. On s'y attendait, mais voilà, à un moment donné, ça vient. Mais on cache tout ça, parce qu'on veut fuir la réalité. C'est pas une blague, hein, c'est tombé ce matin. Et là, on peut revenir à ce que Paul dit à l'église de Corinthe. On vient de terminer l'étude de 1 Corinthiens. Corinthe, c'était vraiment une cité modèle. C'était le Paris, le Londres, le New York, le Las Vegas, le Los Angeles de l'époque. C'était une cité prospère, modèle, avec une église pleine de problèmes. Et notamment dans l'église, il y avait des super apôtres qui critiquaient l'apôtre Paul, qui leur disaient, lui c'est un loser, nous on est des super apôtres, mais lui c'est un loser, il est petit, il parle mal, etc. Et Paul est obligé de remettre les Corinthiens sur le droit chemin et de recentrer sur la croix. Et il dira en 1 Corinthiens 2, « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Point. D'accord ? Donc, la suivre Jésus, c'est inévitablement avoir des échecs, des critiques et des souffrances. C'est ça la clé. Et la question, elle est là. C'est quel Jésus je veux suivre ? Est-ce que je veux suivre un Jésus de la prospérité ? Un Jésus qui est parfait, qui m'amènera sur un chemin paisible, etc. Ou est-ce que je veux vraiment suivre Jésus ? Et si je dois suivre Jésus, je suis un Jésus qui est crucifié, qui est un Jésus souffrant. Et Paul refusera de se vanter. Il dira, je pourrais me vanter de mes visions, j'ai eu des trucs extraordinaires, il le dira aux Philippiens aussi. Et il dit, je préfère parler de mes faiblesses. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Il dit ça dans 2 Corinthiens 11 et un chapitre plus loin, quand il parle de son écharde. Il dit, j'ai prié Dieu pour qu'il m'enlève cette souffrance. Comme quoi Dieu ne répond pas toujours aux prières, il ne répond pas toujours aux demandes de guérison. Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pour ça, dit Paul, que je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Pour ceux qui notent, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et dans sa conclusion de la lettre aux Galates, c'est pareil, il dira, « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde domine. Le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi, de même que moi j'ai été crucifié pour le monde. » Donc on est dans un monde qui parle de réussite, de perfection, de pensée positive. Et nous, en tant que chrétiens, on pourrait être culpabilisés. Moi, parfois, je suis culpabilisé parce que je regarde à ma propre vie. Je me dis, mais lui, c'est incroyable. Il parle que de ses réussites. Et j'ai entendu, moi, des messages où le prédicateur me parlait de réussites insolentes. Alors, quand on écoute ça, on se dit, mais dans quel monde je suis ? On n'est pas sur la même planète. Lui, c'est un super apôtre, quoi. Voilà. C'est un peu le problème de Paul. Et ça peut déteindre dans l'Église. Il ne faut pas penser que c'est juste le monde et nous, dans l'Église, on est protégés. Et Paul dira à Timothée, « Prends ta part de souffrance. » Malheureusement, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est l'Évangile qui le dit, seront persécutés. Hein, Paul à Timothée aussi. Dans mon expérience d'accompagnement de responsables dans le milieu chrétien depuis plusieurs années, la chose qui est la plus difficile à faire admettre à un responsable, c'est les échecs. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand on est en responsabilité, quand on a un titre, qui s'appelle pasteur ou autre, bien c'est difficile de paraître en échec, parce qu'on est un peu sublimé. Ce n'est pas de la faute du pasteur, c'est parce qu'il est un peu placé sur un piédestal. Vous avez des gens d'église qui parlent de mon pasteur a dit ci, mon pasteur a dit ça, mon responsable a dit ci. Donc ils sont un peu sublimés. Les responsables sont sublimés, alors que les responsables, c'est des gens ordinaires, c'est des gens qui ont les mêmes combats, les mêmes souffrances, qui ont besoin de prières et d'encouragement. Donc, si vous pensez que les anciens sont des supermen, des super-héros, c'est pas vrai. Ils ont besoin de prières et d'encouragement. Parce qu'ils sont humains et ils ont aussi des échecs. Et Jésus a dû former ses disciples à cette notion-là. Parce que quand on suit un Jésus qui peut guérir les malades, les paralytiques, multiplier les pains, on se sent vite surhomme. Et Jésus a dû former ses disciples à cette notion de lenteur du royaume de Dieu. Il leur dira, le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde. C'est une toute petite graine insignifiante qui croît lentement sans qu'on sache comment. Il dira, Paul aussi dira aux Corinthiens, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Mes frères et sœurs, la manière d'agir de Dieu est surprenante, elle est complètement différente de la nôtre. C'est pour ça que c'est un vrai changement d'OS, Operating System. Hein, je parle un peu informatique, là, il faut changer le process, il faut changer le système d'exploitation. On a un système d'exploitation qui est infecté par le monde, on doit changer de système d'exploitation pour penser à la manière de Dieu. Parce que la souffrance et l'échec, ça a toujours été le moyen par excellence de Dieu de former des disciples patients, remplis de la compréhension et de la volonté de Dieu. Imaginez que Paul n'ait pas eu son écharde. Imaginez la révélation qu'il aurait eue. Il aurait pu se vanter. Il aurait pu en mettre plein la vue à tout le monde. Il aurait pu écœurer tout le monde. Mais Dieu lui a mis une écharde pour lui rappeler qu'il était humain. Et Paul a le courage, et ça m'encourage énormément, de parler de ses faiblesses, de parler de son écharde. Parce qu'on voit que Paul a fait de grandes choses, et en même temps, il a eu plein de difficultés. Donc c'est la réalité du monde chrétien. C'est cette dualité. On est à la fois, on a un soutien extraordinaire de Jésus, comme le disait François, et en même temps, on est soumis à la souffrance, à la difficulté, à l'échec permanent. Et au final, c'est Jésus qui gagne et nous, on est vainqueurs avec lui. C'est ça qu'il faut retenir. Imaginez l'apôtre Pierre s'il n'avait pas renié Jésus. C'est orgueilleux que ça aurait fait. Il aurait fait n'importe quoi. Mais ce reniement l'a maintenu au bon niveau. Il a été super humble quand on regarde dans ses lettres, etc. On voit qu'il est redescendu d'un étage. Imaginez Moïse s'il n'avait pas été 40 ans dans le désert. À supporter 40 ans de peuple, de pérégrination, s'il n'avait pas été berger pendant 40 ans à exercer sa patience. Donc vous voyez, cette relation entre la souffrance, l'échec et la formation d'un disciple, c'est quelque chose d'indispensable. Le plus grand miracle de Jésus, ça a été sa résurrection. On est bien d'accord. Mais peut-être le deuxième plus grand miracle, c'est quelque chose que Jésus n'a pas fait. Et qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il n'est pas descendu de la croix. À un moment donné, la dernière tentation, c'est les passants qui passent, des gens insignifiants, et qui disent « Ah, descends de la croix, comme ça on croira en toi. » Quelle tentation! Il aurait pu dire « Tiens, court-circuit, après tout, pourquoi je me payerais cette croix ?» Et Jésus n'est pas descendu de la croix. Ce qui fait que le plus grand échec aux yeux du monde, qui est la crucifixion de Jésus, l'abandon de Jésus, ça a été la plus belle victoire de toute l'histoire de l'humanité. Alors, deux questions à se poser en conclusion sur ce quatrième point. En quoi est-ce que j'essaye d'éviter l'échec et la souffrance que Jésus place peut-être devant moi? Peut-être aujourd'hui, Jésus place un échec devant moi ou une souffrance devant moi et je cherche à l'éviter. Et je demande à plein de frères et sœurs de prier que Jésus m'enlève la souffrance. J'invite à vous peut-être à changer d'opérating system et au lieu de prier qu'il enlève, de dire « Seigneur, aide-moi à traverser cette souffrance et aide-moi à comprendre ce que tu veux m'apprendre au travers de la souffrance. » C'est tout l'enseignement du livre de Job. Il a fallu 38 chapitres pour que Job comprenne où Dieu voulait l'emmener. Donc première question, en quoi j'essaye d'éviter échec et souffrance? Et devant qui ai-je peur? Deuxième question, de paraître un échec. Devant qui est-ce que j'ai peur de parler de mes échecs? Est-ce qu'il y a une personne, un groupe de personnes devant lequel j'ai peur de parler de mes échecs? Et peut-être que je me retiens de parler de mes échecs, mais si j'en parlais, ça serait une libération extraordinaire pour ces personnes-là. Parce que notre pire échec, parfois, pourrait être notre plus grande réussite dans le travail de transformation que Dieu peut faire en moi. Et finalement, c'est ça la conclusion. C'est que Dieu est en train de former Christ en moi. Il veut transformer quelque chose en moi. Et il me met un peu au pied du mur. Il me met au pied du mur. Il va permettre que je sois assailli par quatre tentations. La tentation de la popularité. Et là, je peux renoncer à la popularité en disant « Seigneur, moi je veux être populaire en toi. Je sais que toi, tu me connais. Un jour, tu me donneras un caillou blanc sur lequel un nom est inscrit que seul Jésus connaît. » Peut-être je peux être assailli par la tentation d'être grand. Et là, il faut que je sois patient et que j'attende qu'il m'élève. Peut-être ça ne sera pas sur cette terre, mais ça sera plus tard dans l'éternité. Peut-être je suis assailli par la tentation de la réussite et je dois penser que je dois devenir plutôt la personne que Dieu veut que je devienne. Et enfin, si j'essaye d'éviter échec et souffrance, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans la souffrance volontairement. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais si Dieu permet à un moment donné que je sois dans la souffrance, peut-être même depuis de longues années, prier Dieu pour qu'il me montre la cause, la raison de la souffrance. Pour que, comme à Job, à un moment donné, Dieu donne cette révélation. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Peut-être j'ai quelque chose à voir que le Seigneur doit me montrer que je ne vois pas aujourd'hui. Et je dois accepter que Christ, comme le disait Paul aux Galates, puisse être formé en moi. Alors tout à l'heure, on a chanté ce beau chant, « Il me gardera hein ». Et ce chant nous dit « Quand le tentateur est là, il me gardera ». Donc face à ces quatre tentations, eh bien, on a le secours de Jésus pour pouvoir surmonter cela et être vainqueur avec lui, parce que Jésus, lui, est vainqueur. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions des collégiens, mais en tout cas, vous avez ça sur le tableau. Prenez une photo et puis l'application, c'est qu'est-ce que je peux en faire cette semaine. Chacun doit répondre. Peut-être qu'il y a une chose qui vous a interpellé. Et je vous invite à prier et à demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de vous par rapport à cela, ce qui vous a interpellé. Qu'est-ce que vous devez changer pour que Christ transforme quelque chose dans votre cœur. Merci.